Une indexation à 5,8 ne dégrèvera jamais nos stock options.
On va pas juguler les réajustements périodiques du cash flow.
Attendez, j'y comprends plus rien là, c'est trop rapide pour moi, j'ai mal à la tête.
Faut être un petit peu plus clair.
Les OPA de la BE ne stoppent pas les PCI 016 TTC proposés par le CNBA à la SPJC. Je dis foncez, il n'y a aucun risque.
Bienvenue dans Splash, le podcast qui jette un pavé dans la mare de l'économie. Je suis Étienne Tabagne, professeur d'économie à Marseille, et deux fois par mois, je m'attaque franco avec vous à des questions économiques qui dérangent. Ici, pas de théorie fumeuse, on part à la rencontre des individus qui font l'économie contemporaine. Bref, cette émission, c'est comme la friche belle de mai, pleine de ressources et d'idées inattendues. Justement, en parlant d'idées curieuses, il y en a une qui est un peu passée inaperçue en France, mais qui a stupéfié le monde de l'économie.
L'Inde fait-elle n'importe quoi avec sa monnaie ?
Ça s'est passé un certain 8 novembre 2016, jour de l'élection de Donald Trump à la présidence des États-Unis. Évidemment, toute notre attention était focalisée de l'autre côté de l'Atlantique.
Bonsoir à tous, il est le nouvel homme fort de l'Amérique, Donald John Trump, 70 ans, promoteur immobilier, animateur de télé-réalité, donc élu nouveau président des États-Unis. C'est un saut dans l'inconnu pour le pays.
Et pourtant, de l'autre côté du monde, en Inde, le gouvernement de Narendra Modi apparaît sur les écrans de télé de tout le pays et prend une décision qui va plonger l'Inde dans le chaos pendant quelques semaines. Il décide, du jour au lendemain, de rendre invalides les billets de 500 et 1000 roupies. C'est ce qu'on appelle faire une opération de démonétisation.
La vache, je comprends pas un mot de ce que vous racontez. Allez-y, excusez-moi, reprenez depuis le début, je vous écoute.
Démonétisation, c'est-à-dire retirer une certaine quantité de monnaie de la circulation. Il faut savoir que les deux coupures de 500 et 1000 roupies étaient à l'époque les deux plus grosses coupures qui existaient. 500 roupies valant à peu près 7 euros et 1000 roupies environ 14 euros. Et en une nuit, il n'est plus possible de les utiliser. Les pouvoirs publics donnent tout de même quelques semaines aux Indiens pour avoir la possibilité d'échanger ces billets contre de nouveaux billets ou pour les déposer sur des comptes en banque. La mesure est totalement inattendue et prend de court tout le monde. Pour nous décrire comment ça s'est passé sur place, j'ai rencontré Patrick de Jacquelot. Il est journaliste économique et il a été correspondant en Inde pendant 7 ans pour le quotidien La Tribune, puis Les Échos. Il raconte les jours qui ont suivi l'annonce du gouvernement.
Dès le lendemain du 8 novembre, donc panique générale, les banques étaient fermées, les distributeurs de billets étaient fermés, parce que rien n'avait été préparé à l'avance, donc il fallait que les banques s'ajustent à ce changement complètement radical de leur fonctionnement, que les distributeurs de billets soient recalibrés et approvisionnés avec les nouveaux billets qui n'avaient pas été mis en place à l'avance, puisque tout avait été fait dans le secret le plus total, donc rien n'avait pu être préparé. Donc fermeture des banques et des distributeurs de billets pendant quelques jours, puis tout ça a réouvert, mais alors les gens se sont rués pour essayer d'obtenir de l'argent, puisqu'ils ne pouvaient plus rien payer. Ils ne pouvaient plus faire la moindre transaction, sauf avec les billets de 100 roupies qu'il leur restait. 100 roupies, 1,30 €, hein, à peu près. Donc, on a vu les gens faire la queue des heures et des heures devant des distributeurs de billets qui se vidaient aussitôt qu'ils avaient été remplis. Faire la queue des heures et des heures devant des guichets de banque où ils apportaient leurs économies en liquide pour les déposer, quand ils avaient des comptes en banque, parce qu'il y a aussi tous les Indiens qui n'avaient pas de compte en banque et qui donc venaient devant un guichet de banque pour ouvrir un compte sur lequel ils auraient le droit de déposer l'argent qu'ils avaient gardé chez eux, etc. Donc, chaos maximal pendant, ça a duré des semaines et des semaines.
Imaginez un peu. Du jour au lendemain, une population équivalente à 1,3 milliard de personnes se retrouve dans l'obligation de se rendre dans des agences bancaires pour échanger quasiment tout leur argent en seulement quelques jours. À l'époque, les billets de 500 et 1000 roupies représentaient 86% de la monnaie en circulation. Et il ne s'agit pas simplement d'échanger les quelques billets qui restent dans le portefeuille. Non, non, c'est bien plus vaste que ça, car les Indiens font tout avec du cash.
C'est très très difficile d'imaginer dans un pays comme la France où on a le chèque, la carte bleue, etc., ce que c'est qu'une économie qui fonctionne entièrement sur le cash. En Inde, vous avez environ 90% des gens qui sont payés en liquide. parce que dans la totalité du monde rural, on ne connaît que le liquide. Les ouvriers sont très souvent payés en liquide, et d'ailleurs très souvent au jour le jour, c'est-à-dire à la fin de la journée de travail, on reçoit les quelques billets de banque qui correspondent au salaire quotidien. Les dizaines de millions de petits commerçants qui fournissent les besoins quotidiens des gens, notamment alimentaires, ne connaissent que le liquide. Ça va même beaucoup plus loin. Moi, j'ai donc habité en Inde pendant longtemps, dans la capitale, et avec évidemment un mode de vie beaucoup plus occidental que la plupart des Indiens. Eh bien, pour payer ma facture d'électricité, il fallait envoyer quelqu'un au guichet de la compagnie d'électricité avec des billets de banque. Mieux encore, les achats que l'on fait sur Amazon.in, hein, le site indien d'Amazon, en général, on se les fait livrer à domicile et on paye le livreur en cash pour l'achat que l'on a fait. C'est un pays où tout se fait en cash.
Environ 50% de la population active travaille dans le secteur agricole et vit dans un monde rural dépourvu d'agences bancaires ou de distributeurs de billets. Au final, pas grand monde n'a de compte bancaire. L'épargne des Indiens, c'est tout simplement des tas de billets accumulés chez eux. On parle en économie d'épargne liquide thésaurisée. Et cette épargne était plus importante que prévu, car les Indiens mettaient le plus possible de côté pour de nombreuses raisons. En cas d'urgence médicale, pour préparer une éventuelle retraite, car il n'y a pas de protection sociale, ou encore pour financer le mariage des enfants, etc. Les Indiens avaient donc énormément de billets à échanger, avec une seule idée en tête, sauver ce qui peut l'être. Ce qui engendre des conséquences dramatiques sur l'économie. Pour bien comprendre ce phénomène, je suis allé dans les bureaux ultra-modernes de l'OCDE, dans le 16e arrondissement de Paris, pour rencontrer l'économiste Isabelle Joumard, spécialiste de l'Inde. Elle nous explique les conséquences de cet événement.
Dans un premier temps, finalement, les billets et les pièces, les billets n'ayant plus cours, ça crée un problème de liquidité énorme. Donc, ça gèle la consommation et ça gèle les décisions d'investissement, puisque y a un blocage du système de paiement. Ça gèle aussi l'emploi, puisque souvent, comme ces personnes ne sont pas payées par transfert bancaire, mais par en billet de banque, donc on peut, il n'y a plus de salaire, donc il y a eu aussi un mouvement migratoire assez important. Le phénomène probablement le plus brutal, ça a été sur les produits agricoles, donc sur ce qui a affecté en particulier le secteur rural, sachant que 50% de la population est employée dans le secteur agricole, c'est énorme puisque c'est des biens qui sont périssables et qui d'un coup ne trouvent plus preneur. Donc il y a, ce qu'on a observé, c'est une baisse extrêmement marquée du prix des produits agricoles et un arrêt total de la consommation, en particulier des indicateurs qu'on suit parce que c'est un des indicateurs clés, c'est les achats de vélos ou de trois roues, de tuk-tuk. Et on voit vraiment un effondrement très, très marqué à cette période.
Tous les indicateurs économiques importants, la consommation, l'investissement, l'emploi, sont en baisse dans les semaines qui suivent. Concrètement, c'est une situation désastreuse. Mais pourquoi le gouvernement a-t-il infligé ça à sa population? Surtout sans prévenir personne. Quel est l'intérêt de tout ça? La première justification qui est donnée par le Premier ministre tient en un seul slogan, lutter contre la corruption. Par définition, la corruption est très difficile à mesurer, mais tout le monde s'accorde à dire que ce phénomène est très important en Inde. Patrick de Jacquelot, qui y a vécu 7 ans, en sait quelque chose.
Oui, en Inde, la corruption est omniprésente et à tous les niveaux de la société. Il faut bien voir que l'Inde est un pays où l'administration est omniprésente, C'est un héritage d'une époque où l'Inde se voulait une économie socialiste, sans l'avoir jamais été complètement. Mais, et si on remonte encore plus loin, c'est un héritage de l'administration mise en place par les Britanniques, etc. Enfin, le résultat, c'est que l'Inde est un pays extrêmement administré, pour lequel... dans lequel on a besoin d'autorisation, de papier, de feux verts, de toutes sortes, dans tous les domaines. Et, tous ces papiers, toutes ces autorisations, c'est motif à versement d'impôts de vin. Alors, ça affecte les plus pauvres qui, quand ils veulent obtenir leur carte de rationnement dans les programmes d'aide alimentaire pour les plus démunis, doivent verser 100 roupies, donc 1 euro et quelques, mais pour eux, c'est beaucoup. Pour les beaucoup, beaucoup plus aisés qui veulent obtenir leur passeport, c'est la même chose, sauf que ce ne sera pas 100 roupies, ça sera 1000 ou 5000, bon. Si vous êtes conducteur, vous conduisez dans les rues de Delhi, un policier va siffler et va vous dire que vous venez de brûler le feu rouge, alors même que c'est pas du tout le cas. Mais peu importe, vous lui donnerez 200 roupies et il vous laissera repartir. Alors ça, c'est la petite corruption quotidienne, mais ça va évidemment beaucoup plus loin. Quand vous parlez à des chefs d'entreprise en Inde, ils vous expliquent que eux aussi ont leur petite corruption quotidienne, c'est-à-dire qu'ils ont sans arrêt des inspecteurs de l'administration qui débarquent pour vérifier si leur système électrique est conforme, si les normes d'hygiène et de sécurité sont appliquées, si, etc. Et tout ça, c'est des occasions de verser une petite enveloppe, parce que sinon, on entre dans des processus dont on ne sort jamais.
Ah ben dis donc, tu vas pouvoir faire un carton, hein ? Tiens, la terrasse du café, là, trop longue d'un mètre, interdit. Un petit vieil qui traverse en dehors des clous, là, tiens, regarde là, interdit. Le travelot, interdit en dehors des périodes de carnaval. Le commerçant qui affiche pas ses prix, interdit aussi. Alors tu descends et tu arrêtes tout le monde.
Pour combattre cette corruption, le plan du gouvernement était le suivant. En apportant leurs billets de banque pour les échanger, les Indiens avaient l'obligation de justifier l'origine de leurs revenus. Le gouvernement espérait ainsi punir les agents corrompus en interdisant tout échange de billets à l'origine incertaine.
Ouais, c'est du pognon.
Ouais, c'est du pognon. Qu'est-ce que vous en pensez?
Mais quoi, qu'est-ce que j'en pense? C'est des pièces, quoi, il y a ma gueule dessus, voilà.
C'est pas des vrais.
C'est moi qui les fabrique.
Comment?
Cette mesure visait surtout ceux qui se sont enrichis de manière illégale par de la corruption à grande échelle et qui ont accumulé d'importantes liasses de billets de 500 et 1000 roupies. L'idée est osée, brutale, mais on voit à peu près où le gouvernement veut en venir. Alors est-ce que ça a fonctionné ? Eh bien, pas tellement. Un an après, on estime que 99% des billets de 500 et 1000 roupies ont été échangés contre les nouveaux billets. En gros, tout le monde a réussi à s'en sortir. Mais comment c'est possible ? Tout simplement parce que les Indiens ont été très malins pour inventer de nombreux stratagèmes de façon à éviter le contrôle des autorités publiques. Patrick de Jacquelot nous donne certaines des astuces trouvées, notamment par les Indiens les plus riches.
Alors par exemple, les gens aisés qui emploient une demi-douzaine de domestiques, chauffeurs, femmes de ménage, cuisinières, etc., ont distribué leur cash à leurs domestiques, qui eux en avaient beaucoup moins, de façon à ce que chacun aille déposer l'argent sur son compte en banque à lui, et puis ensuite le rendent évidemment à leur employeur, moyennant probablement une petite ristourne, de façon à ce que ça apparaisse comme de l'argent appartenant à des gens pauvres. Bon. Ça, c'est une technique qui a été utilisée à une échelle industrielle. On a vu des gens embaucher... des centaines ou des milliers de travailleurs, ce qu'on appelle les journaliers là-bas, les gens qui cherchent un emploi chaque matin, font un petit boulot, sont payés le soir, le lendemain en cherchent un autre. Bon, ces gens-là, ils sont disponibles en permanence. Et ben, il y en a qui ont été embauchés par centaines, à qui on a distribué des liasses de vieux billets pour qu'ils aillent les changer à leur nom, moyennant commission.
En résumé, rien ne permet de dire que la corruption a diminué depuis cet événement. On n'est pas loin d'assister à un fiasco pur et simple. Mais le gouvernement indien avait peut-être d'autres objectifs en tête. Quelques semaines plus tard, les pouvoirs publics ont expliqué qu'ils cherchaient également à moderniser l'économie indienne, c'est-à-dire concrètement, premièrement, à réduire l'utilisation du cash et de l'épargne liquide, et deuxièmement, à augmenter l'usage des cartes de paiement et des comptes bancaires. Alors pourquoi ? Parce que l'épargne liquide thésaurisée est une mauvaise chose pour toute économie qui cherche à se développer. En fait, c'est préférable d'un point de vue collectif de déposer son épargne dans des comptes en banque. Ça apporte des fonds financiers qui permettent aux banques d'augmenter les crédits qu'elles accordent à leurs clients. Crédits qui ensuite financent des opérations d'investissement, des créations d'entreprises, bref, tout ça étant facteur de développement économique. Détail important, lors des opérations d'échange des billets, le gouvernement avait imposé l'obligation d'ouvrir des comptes en banque. Certes, ça n'a pas empêché les Indiens de continuer à utiliser du cash, mais l'État indien a eu de la suite dans les idées et a procédé à d'autres réformes qui vont dans ce sens. C'est ce qu'explique l'économiste Isabelle Joumar.
Le gouvernement indien a vraiment mis en œuvre une réforme que moi je considère une réforme très prometteuse et qui pourrait s'appliquer à beaucoup de pays émergents. La réforme, elle consiste à ouvrir des comptes bancaires pour les pauvres. Donc, il y a une la réforme, elle a été annoncée au milieu de l'année 2014. Entre mi-2014 et début 2017, il y a eu plus de 270 millions de comptes bancaires ouverts. Ces comptes bancaires, ils sont utilisés c'est sur ces comptes bancaires que le gouvernement maintenant verse l'aide sociale. Et donc ça réduit, on a parlé de toute la question des intermédiaires qui étaient corrompus, et finalement les bénéficiaires recevaient qu'une partie de l'aide qu'ils devaient recevoir. Mais plus que ça, j'ai envie de dire, ça développe une culture financière, une culture du crédit. À ces comptes bancaires ont été attachés des systèmes de micro-assurance, donc assurance vie, assurance travail, perte d'emploi, qui sont aussi quelque chose d'important.
Les Indiens ont donc découvert peu à peu l'usage des comptes en banque, des cartes de paiement et des distributeurs de billets.
C'est une mesure qui me semble moins coûteuse à court terme, avec, effet d'éducation. Quoi. On a vu qu'en fait, les premiers versements sur ces comptes n'étaient pas utilisés parce que les gens ne savaient pas comment utiliser cet argent. Et puis donc, il faut souvent attendre un an et demi pour finalement que les gens commencent à utiliser, comprennent le mécanisme.
Le bilan est-il plus positif pour autant ? Honnêtement, c'est difficile à dire. Comme la démonétisation s'accompagne d'autres mesures, telles que la mise en place d'une TVA, une plus grande efficacité de la distribution des aides sociales sur les comptes bancaires, il est quasiment impossible d'identifier précisément les effets concrets de chaque mesure. Mais on peut estimer que toutes ces mesures ont des chances d'accélérer le développement économique de l'Inde. Isabelle Joumar est en tout cas de cet avis.
Dans un deuxième temps, ce qu'on observe, c'est un effet plutôt positif finalement de la démonétisation. Puisque qu'est-ce qui se passe ? C'est-à-dire que les billets ont été transférés sur des comptes bancaires, puisqu'on a été obligé de faire le changement. Et donc là, on a eu une augmentation assez significative des dépôts bancaires, une baisse des taux d'intérêt et une augmentation des crédits. Donc il y a eu un impact dans un deuxième temps positif sur l'investissement, en fait. Et puis après, il y a un autre type de phénomène, c'est-à-dire que comme les gens étaient obligés de déclarer l'origine de leurs fonds, il y a eu une augmentation du nombre des contribuables. Donc, pas forcément énormément en termes de recettes fiscales, mais des gens sont rentrés dans le système fiscal. Et ce qui a un impact, qui devrait avoir un impact positif à long terme, puisqu'on va avoir plus de recettes fiscales et donc pouvoir mieux financer le développement économique.
C'est sans doute aussi un objectif sous-jacent de toute cette histoire. Faire payer plus d'impôts à la population.
La gabelle, la taille, l'impôt sur les épices, pour cette année, ça fait combien ?
200 000 lucas, monseigneur.
Mais l'année dernière, ça faisait beaucoup plus.
Oui, mais la récolte avait été très bonne.
Cette année, la récolte a été très mauvaise, alors il faut payer le double.
Et oui, si toutes les transactions deviennent plus faciles à tracer et à repérer avec les comptes en banque et les cartes de paiement, le gouvernement peut davantage constater les revenus réels des individus et donc les imposer. Mais ce n'est pas forcément une mauvaise chose, à condition que ces nouvelles ressources servent à financer des politiques de développement plus ambitieuses. Mais bon, personne n'aime payer des impôts. Les Indiens ont dû être particulièrement remontés contre le gouvernement en place. Ça paraît logique, non ? Eh bien, même pas. Et c'est ce qui est sans doute le plus dingue dans cette histoire. La mesure a été relativement soutenue par la population indienne. Patrick de Jacquelot nous dévoile pourquoi.
Alors, il faut reconnaître au Premier ministre Narendra Modi un véritable génie de la communication politique parce qu'il a réussi à convaincre une grande partie de la population que ces mesures étaient certes dures, mais étaient nécessaires pour assainir l'économie du pays et que, en gros, ces mesures pénalisaient essentiellement les riches corrompus. Et donc, vous avez pu voir pendant des semaines et des mois après la démonétisation, dans toutes les enquêtes faites par des journalistes indiens allant sur le terrain, au fin fond des campagnes, dans les bidonvilles, etc., et demandant aux gens « Mais alors, pour vous, qu'est-ce que ça a signifié la démonétisation? Qu'est-ce que vous en pensez ?» Eh bien, vous voyez tous ces gens dire « Ah ben ça a été très très dur, ça nous a coûté cher, ça nous a perturbé énormément, mais c'est pas grave parce que les riches ont souffert plus que nous. » Ce qui factuellement était complètement faux parce que les riches s'en sont bizarrement beaucoup mieux sortis que les pauvres. Les riches ont changé leur argent et leur train de vie n'a pas été affecté. C'est les pauvres qui ont perdu réellement leurs revenus pendant des jours et des jours, etc. Mais l'idée que c'était une mesure, en gros, de justice sociale a quand même fonctionné dans une assez large mesure.
Qu'est-ce qu'on peut retenir de cette histoire au final ? Le bilan est contrasté. La démonétisation a eu un effet économique désastreux à court terme, sans réussir à faire baisser ni l'utilisation du cash ni la corruption. Mais à moyen terme, on espère quelques retombées positives avec l'augmentation de l'épargne bancaire et la hausse de l'imposition. Au fond, la leçon est relativement simple. On ne change pas les habitudes économiques des individus du jour au lendemain. Ça peut paraître anodin comme conclusion, mais toutes les mesures de type « choc » se retournent souvent contre la population, comme en Russie dans les années 90.
Retrouvez l'épisode 13 de Splash, pourquoi les Russes se rangent-ils derrière Poutine sur toutes les plateformes de podcast et sur le site de nouvellesécoutes.fr.
Les mesures d'incitation et d'accompagnement du gouvernement Modi, dont a parlé l'économiste Isabelle Joumard, ont peut-être fait moins de bruit, mais elles auront sans doute plus d'impact positif que la brutale démonétisation. Je voudrais terminer cet épisode en remerciant toutes les auditrices et tous les auditeurs qui sont de plus en plus nombreux à écouter Splash. J'en suis vraiment flatté. Sans oublier tous les commentaires positifs que j'ai reçus sur iTunes ou encore les réseaux sociaux, merci du fond du cœur. Ça donne une sacrée motivation pour faire d'autres épisodes. Je vous donne donc rendez-vous au prochain épisode de Splash pour jeter un autre pavé dans la mare. Rien de mieux pour se muscler les idées. Splash est une émission d'Étienne Tabac produite par Nouvelles Écoutes. Réalisée par Aurore Meyer-Mailleux, montée par Marine Rowe, mixée par Laurie Galigani, coordonnée par Laura Cussard. Pour vous pencher sur les études, les chiffres et références entendues dans l'épisode, ils sont à retrouver dans la description de l'émission et sur le site de Nouvelles Écoutes en vous rendant sur la page de Splash. Vous pouvez retrouver Splash sur Twitter, Splash Podcast tout attaché, sur Instagram et Facebook sous le même nom, Splash Podcast sans espace. Chers auditeurs et auditrices, n'hésitez pas vous aussi à nous poser des questions économiques dans les commentaires de l'émission sur Apple Podcast et je prends toutes vos bonnes idées contre 5 étoiles. À très vite !